Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 6 juillet 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Jean-Roger Bion. Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, 12 morts dans des affrontements entre une milice et l'armée au sud Kivu.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qualifie d'arbitraire la détention de Djibril Bassolé au Burkina Faso.
Au Mali, la Cour constitutionnelle a demandé au gouvernement d'apporter des corrections à son projet de révision de la Constitution.
Au Niger, une vingtaine d'associations de journalistes protestent contre l'incarcération de notre confrère Ali Soumana.
En Libye, le maréchal Khalifa Haftar dit avoir débarrassé totalement Benghazi des djihadistes.
Washington rappelle au Conseil de sécurité de l'ONU que l'option militaire est toujours en vigueur après le dernier tir de missiles balistiques nord-coréens. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, les affrontements entre une milice et l'armée congolaise au sud Kivu ont fait 12 morts, selon un bilan annoncé hier par l'armée. Les détails, Idi Sango.
Le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole adjoint de l'armée au sud Kivu, a donné un bilan provisoire des 12 morts, 2 soldats, 9 maïmaï et 1 civil tué par balles perdues. Selon lui, 4 maïmaï ont été capturés et 5 armes lourdes saisies après des combats entre les maïmaï Yakotumba et les forces armées de la RDC. Les FARDC avaient reconnu avoir perdu le contrôle des 4 localités du territoire de Fizi, occupées par des miliciens maïmaï Yakotumba, qui ont fini par s'y retirer sur les collines environnantes. Les territoires de Fizi, où sont situées de nombreuses mines d'or, et maintenant les repères des Maïmaï Yakotumba, du nom d'un ancien officier de l'armée qui s'est proclamé général et affirme vouloir chasser Joseph Kabila du pouvoir. Cette zone dépourvue d'infrastructures est traditionnellement hostile au pouvoir de Kinshasa. Il a été le point de départ de la rébellion de Laurent Désiré Kabila qui a fait tomber Mobutu Sese Seko en 1997.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU estime que la détention au Burkina Faso de Djibril Bassolé, emprisonné depuis plusieurs mois, est arbitraire. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut Commissariat déclare que l'emprisonnement de Djibril Bassolé viole le droit international. Il demande alors la libération immédiate de l'ex-proche du président déchu, Blaise Compaoré. Il pourrait ainsi réclamer la réparation du tort qui lui a été fait. Dans un courrier adressé au président Rochma Christian Kabore, l'avocat de Djibril Bassolé, Alexandre Varro, a demandé la remise en liberté de son client. Il avance qu'un pays soucieux d'être un membre actif des Nations Unies ne peut s'opposer à la décision prise par le Haut Commissariat. Il a ajouté que l'état de santé de son client nécessite des soins hors du Burkina. Ancien chef de la diplomatie burkinabé et général de gendarmerie, Djibril Bassolé a été arrêté le 29 septembre 2015 pour son rôle présumé dans le putsch manqué contre le régime de la transition.
La Cour constitutionnelle du Mali a demandé mercredi au gouvernement malien d'apporter des corrections au projet de révision de la Constitution qui doit être soumis à référendum, l'obligeant ainsi à renvoyer le projet devant les députés. Dans son arrêt rendu mercredi, la Cour a accepté la requête de l'opposition malienne sur certains articles. Les précisions, Kassim Traoré.
Ils sont une vingtaine de députés de l'opposition à introduire une requête contre certains articles du projet de révision constitutionnelle. Ces députés évoquent la question d'insécurité. La Cour constitutionnelle trouve que l'insécurité est résiduelle au Mali. Maître Demba Traoré, secrétaire à la communication du parti IRD.
Aujourd'hui, où l'État ne contrôle pas plus de 2/3 du territoire et qu'on dise que nous avons tout simplement une insécurité résiduelle, alors moi, je suis vraiment confondu. Je suis confus. J'ai dit quelque part, la Cour n'a pas pris ses responsabilités et c'est un précédent fâcheux, c'est une jurisprudence très dangereuse pour notre pays.
La Cour constitutionnelle a par contre donné raison aux députés de l'opposition. Elle a demandé au gouvernement d'apporter des corrections à certains articles.
La Cour a estimé que le mandat des députés et des sénateurs désignés par le président de la République qui avait aucune indication sur la durée et la Cour a demandé aussi de corriger cette omission. La Cour a également demandé de remettre dans le serment du président
dans la défense de la patrie et l'intégrité du territoire. Et la décision d'aller à une relecture appartient au président de la République qui est l'initiateur d'exécution.
Avec cet arrêt, une relecture du projet constitutionnel devient obligatoire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, une vingtaine d'associations de journalistes protestent contre l'incarcération de notre confrère Ali Soumana en violation, disent ces mêmes organisations ou associations, en violation de la loi nigérienne sur la presse. Le point avec Eric Manirakiza.
Ali Soumana, fondateur de l'hebdomadaire privé Le Courrier, est poursuivi pour soustraction frauduleuse d'une pièce sur une bataille judiciaire depuis 2012 entre le Niger et une société libanaise. Il a été écroué lundi dernier après plusieurs jours de garde à vue. La maison de la presse, qui regroupe une vingtaine d'associations, proteste contre le non-respect de la loi du 4 juin 2010 et apporte son soutien ferme à Ali Soumana. Le collectif s'inquiète aussi des harcèlements et pressions exercées sur les journalistes dans le cadre de leur travail. En juin 2016, Ali Soumana et Moussa Dodo, directeur du Courrier, ont été écroués puis condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Ils avaient publié des documents relatifs à des fraudes à un concours pour devenir fonctionnaire, impliquant d'importantes personnalités.
Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est de la Libye, a annoncé mercredi soir la libération totale de la ville de Benghazi des djihadistes après plus de 3 ans de combats meurtriers. Au cours du printemps 2014, le maréchal Haftar avait lancé une opération qu'il a appelée Dignité pour reprendre la ville de Benghazi, bastion de la révolution libyenne de 2011 qui était alors tombée aux mains des djihadistes. La Libye est livrée au chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011.
La Cour pénale internationale doit se prononcer aujourd'hui sur la violation ou non des lois internationales par l'Afrique du Sud pour avoir refusé d'arrêter sur son sol en 2015 le président soudanais Omar al-Bashir, poursuivi pour génocide au Darfour. Les juges devront décider si l'Afrique du Sud, pays signataire du statut de Rome, traité fondateur de la CPI, a manqué à ses obligations. En permettant à l'avion d'Omar al-Bashir de décoller d'une base militaire, le gouvernement sud-africain, qui avait l'occasion de l'arrêter, a choisi de ne pas le faire, avait affirmé l'accusation en avril devant la Cour de La Haye. Or, selon les avocats de Pretoria, il n'est et n'était pas du devoir de l'Afrique du Sud, au terme du droit international, d'arrêter le chef en exercice d'un État non membre de la Cour comme M. Béchir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont dit hier au Conseil de sécurité de l'ONU qu'ils sont prêts à utiliser des moyens militaires pour défendre l'Amérique et ses alliés contre la menace posée par le tir d'un missile intercontinental par la Corée du Nord. Mais, souligne Washington, il serait préférable de résoudre la crise par des moyens diplomatiques et économiques. C'est ce qu'a déclaré la représentante permanente américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, lors d'une réunion d'urgence à huis clos. Les États-Unis ont quelque 28 500 militaires stationnés en Corée du Sud et quelque 50 000 autres au Japon. Washington, soutenu par la France, va proposer de nouvelles sanctions contre Pyongyang, mais selon l'AFP, la Russie a d'ores et déjà prévenu qu'elle s'y opposait.
Arrivé mercredi soir à Varsovie, Donald Trump a entamé une visite de première importance en Europe, où il participera au sommet du G20 à Hambourg en Allemagne, avec au programme une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine et aussi avec le président chinois Xi Jinping. Le président des États-Unis, accompagné de sa femme Melania, de sa fille Ivanka et de son gendre Jared Kushner, commence donc par la Pologne, un pays pro-américain.
Les États-Unis se sont dit prêts mercredi à travailler avec la Russie pour établir des mécanismes communs en Syrie, comme des zones d'exclusion aérienne, a annoncé le secrétaire d'État américain Rex Tillerson dans un communiqué. Si nos deux pays travaillent ensemble pour établir la stabilité sur le terrain, cela posera des fondations pour une avancée vers un accord sur l'avenir politique de la Syrie, a-t-il notamment ajouté. La déclaration du chef de la diplomatie américaine intervient avant une rencontre vendredi entre les présidents russes et américains. La Minute Éco, Blanche Sanou.
La Banque islamique de développement approuve 452 millions de dollars de prêts pour des projets de développement en Afrique. Le Burkina Faso bénéficie d'un prêt de 102,8 millions de dollars pour le renforcement de la centrale électrique de Kossodo et 165,4 millions de dollars pour la réhabilitation de la centrale thermique de Sirakoro au Mali. Outre l'énergie, la BID a octroyé un prêt de 53,71 millions de dollars pour renforcer les infrastructures agricoles au Cameroun et 15,4 millions de dollars pour un projet d'adduction d'eau en Guinée. En Côte d'Ivoire, les employés de la Société nationale d'opérations pétrolières Petrosi ont déclenché un mouvement de grève pour dénoncer la mauvaise gestion de l'entreprise publique. Avec 28 champs pétrolifères identifiés, dont 23 attribués à des opérateurs étrangers, la production du pays a doublé entre juin 2015 et juin 2016 pour atteindre 45 000 barils par jour. Au Nigeria, le lancement d'une plateforme participative contre la pollution pétrolière dans le delta du Niger a pour objectif de garantir une justice pour les communautés touchées par les déversements de pétrole. Baptisé The Decode Oil Spill Project et accessible en ligne, cette plateforme doit permettre aux volontaires de rapporter les mauvais agissements des compagnies pétrolières.
À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La SEC Mimosa réorganise ses structures.
Tout à fait. Champion de la saison 2016-2017, la SEC Mimosa a dévoilé hier la nouvelle organisation de son staff technique. Yao César Lambert Amani est nommé entraîneur principal de l'équipe. Il a pour adjoint Bakary Koné en charge des gardiens de but. Amani prend ici la place de Siaka Traoré qui a conduit les Mimos au titre cette saison. Ce dernier devient coordonnateur technique. L'ancien international Bakary Koné, dit Baki, est nommé responsable de la section football professionnel.
Retour au bercail pour Steven Pienaar.
Effectivement, après plus de 10 ans de carrière en Europe, le Sud-Africain est retourné dans son pays. Le milieu de terrain, arrivé en fin de contrat avec Sunderland, relégué en championship, s'est engagé avec Bidvest White, club sud-africain champion de la saison 2016-2017.
Emmanuel Emenike quitte Fenerbahçe pendant que Carlos Kameni y dépose ses valises.
Oui, alors qu'on croyait qu'il allait terminer sa carrière en Espagne, 13 ans après, Carlos Kameni quitte Malaga. Le gardien de but camerounais, 34 ans, s'est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur de Fenerbahçe. Mouvement inverse pour Emmanuel Emenike. À Fenerbahçe, depuis 2011, le Nigérian change d'air. L'attaquant s'est engagé en faveur de l'Olympiakos. Une indemnité de 2 millions d'euros est évoquée pour l'acquisition du joueur par le champion en titre grec.
Diego Maradona, désormais citoyen d'honneur de Naples.
Oui, la légende du football Diego Maradona a été nommé citoyen d'honneur de Naples où il a joué de 1984 à 1991. La municipalité de Naples a justifié cette décision par le fait que Maradona a eu la capacité d'unir les Napolitains et les a fait rêver à un certain moment donné. Maradona a guidé l'équipe de Naples vers ses deux seuls titres de champion d'Italie en 1984 et 1990.
Wimbledon 2017 pour y éliminer Murray et Tsitsipas.
Tout à fait, le tenant du titre et numéro 1 mondial Andy Murray n'a laissé aucune chance à Dustin Brown qui l'a balayé sans jamais concéder une seule balle de break pendant la rencontre. Un succès aisé et autoritaire en 3-7, 6-3, 6-2, 6-2. Le croate Marin Cilic, quant à lui, a défait l'allemand Florian Mayer en 3-7, 7-6, 6-4, 7-5. De son côté, Lucas Pouille dit déjà au revoir à Wimbledon. Quart de finaliste en 2016, le Français ne réitérera pas sa performance cette année. La faute à Jerzy Janukovic qui a jailli de ses cendres pour surprendre le numéro 3 tricolore. Après deux premiers sets accrochés mais perdus au tie-break, le Nordiste a réduit l'écart avant de sombrer dans le quatrième set, 7-6, 7-6, 3-6 et 6-1.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Boaké, ville carrefour, de par sa situation géographique, s'est bâti une solide réputation de ville commerçante en Côte d'Ivoire. Une ville où l'activité principale reste le commerce informel. Entièrement ravagé par les flammes depuis bientôt deux décennies, le marché central n'a pu être rebâti. Conséquence, l'activité commerciale s'exerce partout, même dans les endroits les plus inappropriés. Les entreprises, les emplois, des artères et autres domaines publics n'échappent guère à la présence de ces vendeurs. C'est Ricky Barrault.
Ils sont nombreux à investir les abords des grandes artères de Boaké. Eux, ce sont ces commerçants qui ont élu domicile sur les trottoirs pour y exercer leurs activités. Une occupation qui, selon les commerçants, se justifie par le manque d'infrastructures.
On ne nous a pas vraiment donné des sites pour se défendre. Oh, actuellement, tout le monde sait que c'est dur. On est obligé de venir exposer les marchandises près du trottoir. Ce qui gêne, mais nous aussi, on a besoin de chercher pour nous. Question de sécurité, c'est Dieu qui nous protège.
Aoutou Daniel, nous sommes sur le trottoir parce qu'il y a le manque du marché. Si on avait un marché à notre disposition, on allait s'installer là-bas. Consciemment, on sait que les trottoirs sont très dangereux pour nous, mais bon, on n'y peut rien.
Bamba Mustapha, nous manger, c'est pas bon, mais comme il n'y a pas le marché, on est obligé un peu pour venir sur la route.
Selon Ouattara Korotoum, sixième adjointe au maire en charge des questions environnementales et éducatives, cet état de fait crée un réel manque à gagner en termes économiques à la municipalité.
Il y a des places à l'intérieur des marchés où ils peuvent aller vendre, mais ils refusent. Ils se disent que lorsqu'ils sont à l'intérieur des marchés, les clients ne pourront pas les voir. La mairie paie énormément sur le plan financier. Il y a une brigade de salubrité que nous avons mis en place. Quand nous venons aujourd'hui, ils se mettent dans les rangs. Mais lorsqu'il y a un petit moment d'inattention, ils reviennent sur les abords des voies.
Sur la question de la reconstruction du marché central, Madame le maire apporte quelques éclairages.
La date butoir pour nous, c'est en janvier 2018. Les tirs des militaires ont fait que nous avons perdu près de 6 mois qui ont retardé la construction du marché.
L'occupation illégale du domaine public par les commerçants entraîne à l'insalubrité dans la ville. Et selon le représentant régional de l'Agence nationale de salubrité urbaine, Kwasi Jean-Pierre, l'heure est à la sensibilisation.
Ce que nous faisons le maximum, c'est la sensibilisation. Nous allons vers ces mêmes commerçants et nous les sensibilisons pour qu'ils puissent vraiment se mettre selon les prescriptions de la mairie. La mairie aujourd'hui a indiqué des endroits où ils doivent être, mais ils ne veulent pas partir. Il faudrait bien que nous allons vers eux dans ce sens-là.
Rappelons qu'en 2011, une vaste opération de déguerpissement des occupants illégaux du domaine public avait été pilotée par le ministère en charge de la salubrité urbaine sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Faute de mesures d'accompagnement et de suivi, les commerçants de Boaké ont vite fait de regagner leur place de prédilection sur le domaine public les semaines d'après. Siri Kibaro, Boaké pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En province du Lualaba, en République démocratique du Congo, deux villages de plus d'une centaine d'habitants sont appelés à la délocalisation par l'entreprise minière Chemical of Africa, qui a un permis d'exploitation du gisement de Mutoshi sur base d'un contrat avec la Gécamine. La population reste très méfiante malgré les assurances de l'entreprise, nous dit de Lubumbashi notre correspondant Narval Mabila.
Village Mukoma, village Kabamb et une partie de la périphérie du quartier Mutoshi sont appelés à la délocalisation pour s'être retrouvés dans les périmètres d'exploitation du gisement des Mutoshi des 104 km² qui sera exploité par Chemical of Africa sur base d'un contrat d'amodiation avec la générale des carrières et des mines signé il y a peu. Les projets de délocalisation est mal perçu par plus d'une personne concernée qui ont réagi à notre micro.
Nous occupions cette terre depuis 1960. Là, je suis surpris d'apprendre que Chemical
pouvait nous délocaliser de cet endroit. Je n'étais pas vraiment informé. Raison pour laquelle j'ai dit si notre gouvernement a vendu la localité et qu'on commence à nous faire quitter ou bien délocaliser de ces lieux sans nous avoir informé au préalable.
Moi, je m'appelle M. Kajinga Robert. Nous avons acheté ici nos parcelles officiellement. Quand nous avions acheté, Chemaf n'était pas là. Nous ne voyons pas comment est-ce qu'il va venir nous délocaliser ici. Sur quelle base? Nous disons non et non, puisque nous sommes dans notre concession, nous sommes dans notre terre. Nous refusons, puisque nous avons la malignité de Chemaf. Chemaf n'a jamais été véridique. Nous le connaissons, nous refusons. S'il y a quelqu'un, un autre, celui qui est digne, qu'il vienne en collaboration avec la population.
Informé face au projet de délocalisation, les ministres provinciaux des mines de la province du Lualaba, Blaise Tshizainga, est descendu sur les lieux et demande au respect du code minier.
Je suis venu aussi m'informer, j'ai appris que Chemaf s'apprêtait à délocaliser deux villages. Effectivement, c'est dans leur concession, c'est dans leur permis d'exploitation. Je suis venu leur dire qu'il faut respecter les droits congolais, il faut respecter le code minier et qu'il y a un processus pour une délocalisation. Et l'œil du gouvernement sera là pour voir si Chemaf va respecter cela. Et nous ne reculerons pas puisque ces gens-là ont été les premiers occupants et ils ont droit à une délocalisation dans l'ordre et à des maisons, des habitations conformes à la loi. Et nous y veillerons.
Chemical of Africa est à la phase de prospection et développement de son gisement du Mutoshi. Selon M. Guilain Yumba, directeur au développement, il rassure que la délocalisation sera faite selon les normes du code minier avec l'accompagnement du gouvernement provincial du Lualaba.
Il y a deux villages principaux, il y a le village Mukoma et le village Kabamba. Avec le village Mukoma, on a déjà entrepris avec le gouvernement provincial du Lualaba. On a fait des contacts avec l'aide de certains organismes. On a recensé les villageois. On a même choisi l'endroit où il faudrait les délocaliser. Donc en principe, ce genre de choses, c'est le gouvernement qui connaît bien son secteur, connaît bien l'endroit, qui peut connaître, voilà, voici les bons endroits pour les délocaliser, qui vous fait une carte des charges que vous devez supporter.
Pour M. Modian Vita de l'ONG, la voix des opprimés qui tente de faire la médiation avec la population de l'entreprise, la solution est claire.
Il doit commencer par d'abord indemnisation, puisqu'il doit respecter certains préalables, notamment consulter la population. Ça, nous-mêmes, nous allons l'accompagner.
Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Vous êtes bien sur VO Afrique, 24 heures sur 24, en RDC, à Lubumbashi, évidemment, sur le 102.8 FM.
À N'Djamena, capitale du Tchad, les blanchisseurs et autres adeptes du système D prennent d'assaut tous les jours le bord du fleuve Chari. André Kotmadjingar est allé à leur rencontre. Écoutons son reportage.
À peine le soleil se lève, le bord du fleuve Chari, l'espace d'environ 3 km entre deux ponts qui relient la capitale au sud du Tchad, est noir de monde. Ils sont des Tchadiens, Sénégalais, Béninois, Burkinabés, Nigériens, bref, toutes les nationalités confondues, à exercer le métier de blanchisseur et autres activités génératrices de revenus. Ils lavent systématiquement tous les linges, y compris les linges féminins. Une activité qui rapporte, estime quelques blanchisseurs que nous avons rencontrés. Cependant, ils déplorent l'arnaque dont ils font l'objet de la part des agents de sécurité qui prélèvent 500 francs CFA par personne et par jour, alors même que la décision interdisant les activités au bord du fleuve Chari est tombée en désuétude.
Même si cette activité ne rapporte pas, nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas un travail plus dur que la lessive, mais ça nous a permis d'assurer nos besoins quotidiens. Je pratique cette activité depuis mon arrivée au Tchad. Tout le monde me connaît et je n'ai pas de problème avec mes clients. Ma préoccupation, c'est de garantir la rançon de ma petite famille. Je suis marié et père de 4 enfants, et plus je suis locataire. Si je croise les bras, qui va nourrir ma famille? Mais nous déplorons le fait que les agents de sécurité nous exigent 500 francs par jour. Tout compte fait, chacun de nous paye au moins 15 000 francs CFA par mois, alors que les bénéfices que nous gagnons par jour varient entre 2 000 à 3 000 francs CFA. Reste à savoir si cet argent entre dans le trésor public, car aucun reçu n'est donné en contrepartie et nous n'avons pas le pouvoir d'exiger quoi que ce soit.
Au bord du fleuve Chari, il y a une catégorie de jeunes qui s'organisent et louent des véhicules pick-up pour enlever le sable et aller vendre aux clients. Les maçons curieux se déplacent le plus souvent au bord du fleuve Chari à la recherche de la bonne qualité du sable. Témoignage de Moïmou, Félix et Mbailissi, respectivement propriétaires d'une Toyota pick-up louée pour le transport et maçons rencontrés au bord du fleuve.
Justement, ça nous rapporte. Je suis le seul qui vient ici au fleuve. Avec mon véhicule, j'en
j'enlève pour les amis qui sont là en route, qui vendent aux clients. Et là, ici, moi, je le fais sortir là en route, là, 3000 francs. Les difficultés, tout juste, c'est entre nous avec gens qui lavent des habits, là. Des fois, ils occupent aussi la place et on se querelle un peu et on s'entend. Je suis marié, j'ai 4 enfants et un petit-fils. Et ils viennent avec les enfants, ils remplissent le véhicule. Moi, je les dépose là au goudron et les clients viennent acheter avec eux.
Maintenant, on est en train de chercher les gros grains pour quand même nous permettre de faire la construction. Donc, on cherche la qualité. Ouais. Maintenant, vous savez, l'eau avance, donc c'est ça qui cause notre difficulté.
André, Kodumadjingar, Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Burundi, depuis le premier lundi de ce mois de juillet, des travailleurs de la mairie de Bujumbura font percevoir des frais de stationnement sur les voies publiques, une mesure qui vient ajouter des taxes supplémentaires aux habitants du centre-ville de la capitale, selon plusieurs conducteurs de véhicules. Les réactions enregistrées à Bujumbura par notre correspondant Christophe Kurunziza.
Vers les heures de midi ce mercredi, de nombreux véhicules étaient visibles sur l'avenue de Mission Centre-Ville de Bujumbura, comme dans d'autres avenues fréquentées de la capitale. Des percepteurs en gilet orange se déplaçaient de voiture en voiture pour donner des tickets de 300 et 2000 francs burundais pour des voitures garées sur les chaussées pendant un temps variant entre 1 et 12 heures. Ce conducteur estime que la décision de la mairie vient à point nommé, mais devait être suivie d'autres mesures.
Je pense que d'un côté, c'est très bien. Mais d'un autre côté, il faut voir, l'État a mis cette disposition, mais sans avoir préparé les parkings des particuliers, et ensuite sensibiliser la population. La fluidité de la circulation se remarque automatiquement.
Même constat pour cet artiste qui jadis fut gouverneur d'une province à l'est du Burundi.
À Bujumbura, je ne crois pas que les parkings soient bien aménagés. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signes qui matérialisent les limites, le redimensionnement des routes. Je crois que c'est une opération qui devrait se mener avant qu'on ne pense à la facturation et à faire taxer les gens ces parkings.
Cet autre conducteur de véhicules remarque certaines imperfections à corriger pour que la mesure de payer les parkings soit suivie avec efficacité.
D'abord, il n'y a pas de trottoir pour mettre les véhicules devant les endroits de travail. En même temps, il n'y a pas de sécurité pour ces véhicules. Mais pour le gardiennage, c'est autre chose. Tout cela mérite une correction concertée entre les propriétaires des véhicules et la mairie de Bujumbura.
La gestion des points de stationnement sur les véhicules est confiée à 4 sociétés privées qui ont fait une convention avec la mairie de Bujumbura. Le maire de la ville avait informé que les emplacements de stationnement devaient être signalés par une matérialisation au sol qui confirme que le stationnement est payant. Freddy Mbonima.
La ville de Bujumbura doit s'adapter aux autres villes du monde. Si cette semaine ils ont commencé, c'est pour aussi faire respecter cette recommandation. Et c'est aussi pour que la mairie puisse quand même avoir de l'argent, pouvoir développer différentes entités administratives. Il y a 4 sociétés qui ont gagné et ces sociétés doivent impérativement faire payer ses droits, aussi pouvoir assurer la sécurité de ces véhicules.
Les véhicules immatriculés de l'État, la police, l'armée, les véhicules des missions diplomatiques et des organisations internationales, ainsi que ceux des handicapés, sont exemptés de cette taxe de stationnement. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Les retombées du 29e sommet de l'Union africaine qui a pris fin mardi dernier en Éthiopie. Autofinancement, gouvernance et jeunesse africaine. L'UA a-t-elle fait des avancées sur ces sujets qui polarisent l'attention depuis des années? Et alors que l'ONU veut passer le témoin à l'UA concernant les opérations de maintien de la paix sur le continent, l'institution panafricaine pourrait-elle relever le défi? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sim Sulumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.